Handicap international, résultat d'une mobilisation internationale, le traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles et le traité d'Oslo contre les BASM, bombes à sous-munitions, entrées en vigueur le 1er août 2010, mettent fin à l'impunité concernant l'utilisation de ces armes qui continuent de mutiler ou de tuer plus de 5000 civils chaque année et polluent 83 pays et territoires. Aujourd'hui, 500 000 personnes blessées par des accidents de mines ou autres restes d'explosifs de guerre ont besoin d'une aide de vie. En septembre, Handicap International organisait la pyramide de chaussures dans 31 villes de France pour continuer de mobiliser l'opinion contre des armes de lâche. Les explications de Jean-Baptiste Richardier, cofondateur de Handicap International, avec Raymond Aubrac, engagé à ses côtés, et Jack Lang.
Vous allez mettre une paire de chaussures ?
Oui, j'ai une paire de chaussures pour la pyramide. J'espère qu'elles serviront à quelqu'un.
Vous aussi, vous allez mettre une paire de chaussures ?
Naturellement, naturellement.
Bon, alors vous y allez en même temps ?
On obéit.
À la une, à la deux et à la trois !
Ce qu'on peut regretter, c'est que les États-Unis n'aient toujours pas ratifié la convention d'Ottawa, si vous voulez. Alors, je crois que le président Obama y est favorable. Mais le Congrès, pour l'instant, résiste toujours. Alors, le président me disait qu'il y avait quelques signes d'avancée, tant mieux. Et comme vous le savez, les États-Unis entraînent d'autres pays. Certains pays se servent des États-Unis pour justifier leur non-ratification. La Chine, Cuba et d'autres pays. Donc beaucoup de choses peuvent venir des États-Unis. Je crois qu'une action comme Handicap International est une action déterminante parce qu'elle touche les opinions publiques, elle touche les citoyens et il faut essayer de remuer un peu les uns les autres. Et merci d'être là vous-même pour faire connaître la situation aux citoyens français en tout cas. Mais il faut encore continuer à se battre.
De toute façon, ce sont les mots-clés de ce type de combat. Hein. C'est fidélité, persévérance, stigmatisation quand c'est nécessaire et surveillance. Parce que les États ont parfois des prises de conscience salutaires, surtout quand des massacres trop voyants deviennent intolérables pour les opinions publiques et que les ONG sont là pour les relayer. Mais en même temps, ils sont très vite oublieux. Non pas nécessairement de leurs engagements en tant que tels, parce que je crois que ce qui reste très significatif dans l'organisation du Concert des Nations, c'est l'importance des traités pour les États. Ne croyons pas que des États signent des traités à la légère. Mais dans leur mise en œuvre, parfois c'est un petit peu lent, c'est pas nécessairement suffisamment résolu. Et de ce point de vue-là, nous sommes particulièrement attentifs au respect de ces engagements par la France.
On ne savent pas concrètement les conséquences meurtrières de cette situation. Il faut... Peut-être votre organisation et d'autres font savoir à quelle catastrophe aboutit l'absence d'intervention ou d'engagement des États, même si des États non signataires font aussi un effort pour lutter contre les mines antipersonnelles.
Oui, les États-Unis notamment revendiquent un rôle déterminant dans le déminage, et c'est vrai, c'est pratiquement le principal financier. Mais ça ne suffit pas, les États-Unis, en ne signant pas le traité, fournissent un formidable alibi à des pays comme la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Inde, Israël bien sûr, Cuba et un certain nombre d'autres. Néanmoins, la norme aujourd'hui est l'illégalité du traité. Et c'est vrai, vous avez raison, les États-Unis sont obligés de la respecter.
Et ça, dans les faits, ils agissent.
Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, le rôle des ONG, c'est de tordre le cou à cette fable sinistre que les victimes des mines antipersonnelles et aujourd'hui des bombes à sous-munitions seraient des dommages collatéraux. C'est un argument trop confortable qui est totalement réfuté par la réalité des chiffres et l'ampleur du massacre. Et c'est là où la société civile a joué, avec le soutien de certains politiques, un rôle déterminant pour cette prise de conscience. Merci à vous. À l'année prochaine.
J'espère qu'on mesurera d'autres progrès d'ici là.
Sûrement, parce que le traité d'Oslo est tout jeune. Il est entré en vigueur au mois d'août dernier. La France l'a signé au mois de juillet. Donc on est vraiment au tout début de ce nouveau combat et il faut, là encore, faire preuve de persévérance.
Vous êtes assisté d'un homme éminent.
Parce qu'en dernière analyse, tout dépend de l'opinion publique. Par conséquent, c'est l'opinion publique qui amène les gouvernements à signer les traités, à les ratifier et à les respecter. Donc les manifestations comme celle d'aujourd'hui de Handicap International, à mon avis, ce sont des manifestations qui sont décisives Et vous êtes évidemment, monsieur le ministre,
présence,
du même avis.
Votre présence à vous, Raymond Aubrac, est décisive.
Merci.
Merci à vous.
Monsieur Aubrac, vous êtes allé dans les pays de l'Est, notamment au Kosovo aussi. Votre engagement...
J'étais deux fois au Kosovo avec le docteur Richardier, mais je me suis aussi occupé de déminage au Vietnam et puis en Algérie. En Algérie l'année dernière.
Tout récemment.
Tout récemment. Voilà. Et tant que je suis sur mes jambes, un peu fatigué, si on a besoin de moi, je réponds à l'appel de mon ami Jean-Baptiste.
Au mois de novembre va avoir lieu la première conférence après le traité d'Oslo. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Je crois qu'il ne faut jamais préjuger des résultats d'une conférence où les nations se mettent autour d'une table. Néanmoins, le cadre est posé. Le traité d'Oslo est une réalité. Donc c'est une conférence de mise en œuvre. C'est une conférence où les États vont poser autour de la table leurs engagements respectifs et les modalités selon lesquelles ils vont les respecter. Et tout ça sous l'œil extrêmement vigilant de la coalition des ONG pour l'interdiction des sous-munitions, dont Handicap International évidemment est présent sur place, puisque nous avons là-bas depuis très longtemps des programmes d'assistance aux victimes et bien sûr de déminage dans la province de Savannakhet. Le Laos est le pays martyr par excellence des bombes à sous-munitions. C'est le pays le plus pollué de la planète. C'est le pays des mensonges d'État, du silence, puisque c'était une guerre clandestine, et de l'impunité également, puisque les États-Unis qui ont bombardé avec une rare sauvagerie ce petit pays qui n'était même pas officiellement en guerre, n'ont finalement, aujourd'hui encore, toujours pas reconnu officiellement ce qu'ils avaient perpétré sur ce petit pays. Côté plus positif, les États-Unis seront présents à Vientiane à l'occasion de cette conférence, comme observateurs bien sûr. Les États-Unis seront également présents parce qu'ils ont commencé à ouvrir un important programme de déminage, en tout cas des financements très significatifs. C'est le début d'une reconnaissance de leurs responsabilités et on les encourage bien sûr non seulement à faire plus, mais on espère également que dans les prochains mois, une bonne nouvelle pourrait nous parvenir, en tout cas si l'on en croit le bureau d'Handicap International à Washington. Il semblerait que l'administration américaine s'acheminerait vers une accession au traité d'Ottawa, ce qui serait une formidable rupture par rapport au déni de droit de toutes les victimes de ces armes, dès lors que les États-Unis continuent à revendiquer la légitimité de cette arme. Et en revendiquant la légitimité d'une arme, les États-Unis donnent un formidable alibi à tous les pays qui refusent de s'inscrire dans des traités internationaux. Je veux parler bien sûr de la Chine, de la Russie, mais plus près des États-Unis, de Cuba, et plus proche des États-Unis, Israël, mais également l'Inde, le Pakistan, enfin bref. Parmi les 36 nations qui, aujourd'hui encore, n'ont pas signé le traité d'Ottawa, la plupart d'entre elles pourraient le faire, à condition que les États-Unis signent.
Oui, c'est vraiment le verrou, et c'est pour arrêter un commerce trivialement juteux.
La dimension commerciale aujourd'hui n'est pas le premier moteur, c'est avant tout une dérive des pratiques guerrières. C'est un recul de la volonté des États de respecter le droit international humanitaire. Donc c'est un appauvrissement de ce droit que l'on doit chérir, parce qu'il est le sursaut des nations à chaque grand massacre, à chaque grande curée militaire. Donc, dans ces cas-là, ils se ressaisissent. Les conventions de Genève sont issues de cette histoire-là. Le traité d'Ottawa et aujourd'hui le traité d'Oslo sont des traités qui viennent restaurer le sens, la motivation, la nécessité de ce droit international humanitaire, tout simplement pour que la planète demeure un monde où il fait bon vivre et où les civils peuvent vivre en paix quand un conflit est terminé et ne vivent pas en permanence sous la menace d'armes totalement illégales. Si vous voulez, certains seraient tentés de dire avec deux traités, ça va, c'est bon, à quoi bon? Alors certes, on a deux victoires. Je ne connais pas beaucoup de militants qui, en 20-30 ans de mobilisation, puissent afficher à leur tableau de chasse deux traités sur des armes conventionnelles. On pourrait avoir un énorme sentiment de satisfaction. En pratique, l'expérience nous démontre que, et c'est ce que ces pyramides veulent exprimer, c'est que l'accompagnement d'un traité doit répondre à plusieurs impératifs. Le premier impératif, c'est la fidélité. S'il y avait une seule victime du terrorisme en France, dont on ne prendrait pas soin, pour laquelle on ne déplorait pas une cellule psychologique, dont on ne s'occuperait pas de l'appareillage, mais également de l'accompagnement social, de l'accompagnement économique, ça serait un véritable scandale. Eh bien, figurez-vous que les victimes des mines et des sous-munitions, aujourd'hui, les survivants, sont plus de 500 000 dans près de 80 pays.
Ça, c'est un scandale également. Donc ces pyramides, elles sont là pour exprimer qu'on doit être fidèle à ceux pour lesquels ce combat a été initié. Et tant que des engagements ne seront pas suffisamment mis en œuvre, qui font partie de la signature de ces deux traités, pour accompagner les survivants et leurs familles pour toute la vie, alors on aura de bonnes raisons de continuer à se mobiliser. La deuxième raison, c'est la persévérance. Si on affiche cette persévérance, on a des chances de faire progresser l'universalisation. Je l'ai dit, je le répète, les deux traités établissent une norme illégale pour ces deux armes. Donc, dorénavant, ceux qui y ont recours ou qui affirment la légitimité d'y avoir recours se placent dans le cadre de l'illégalité. Il n'en demeure pas moins que la persévérance est le seul moyen de convaincre et d'amener les États, petit à petit, à rejoindre le concert des nations, de celles en tout cas qui ont choisi le droit. La troisième raison, c'est la stigmatisation. Ces pyramides sont là pour stigmatiser les comportements de ceux qui refusent de signer et bien sûr, a fortiori, ceux qui aujourd'hui encore, en dépit de cette illégalité, ont encore recours aux mines antipersonnelles et demain aux sous-munitions. En tout cas pour les mines antipersonnelles, on sait que la Birmanie et la Russie, et peut-être la Turquie, dit-on, y auraient eu recours l'année dernière. Et donc, le prix à payer pour ces gouvernements doit être le plus cher possible. L'exposition médiatique du recours à une arme illégale est quelque chose que les États n'aiment pas. Et enfin, le dernier mot clé, c'est la surveillance. Ces deux traités sont des traités sous surveillance. Ça veut dire qu'ils ont été fondés sur une alliance entre un certain nombre d'États qui ont choisi de faire alliance avec la société civile pour reconquérir, restaurer le droit international humanitaire. Et bien sûr, les deux coalitions, la campagne internationale contre les mines antipersonnelles, dont Handicap International est l'un des organismes fondateurs, mais également la coalition contre les sous-munitions, qui sont en train d'ailleurs d'opérer un rapprochement pour fusionner, sont deux organismes qui surveillent de près, avec un outil extrêmement riche qui est l'Observatoire des mines. L'Observatoire des mines qui publie chaque année un état du comportement de chacun des pays signataires, mais également des pays non signataires. Alors, je vais vous dire, c'est Jean-Paul Sartre qui, en 1967, a le premier appelé à l'interdiction des bombes à sous-munitions, avec un certain Bertrand Russell. Ils avaient créé le tribunal Russell-Sartre. Évidemment, ils n'ont pas été entendus à l'époque. Il a fallu plus de 40 ans pour que, et 440 millions de sous-munitions larguées sur environ 27 pays, pour que l'humanité se ressaisisse et décide enfin de renoncer à l'incroyable désinvolture que représente la mise au point et l'utilisation d'une arme qui, par sa définition même, sa conception même, est totalement contraire aux piliers du droit humanitaire international que sont l'obligation de pouvoir respecter les civils. On n'a tout simplement pas le droit, on n'a tout simplement pas le droit d'avoir recours à des armements dont on sait que ce que les militaires appellent les dommages collatéraux seront en fait un massacre programmé.